Vous écoutez RTL.
Allô maman bobo.
RTL.
Allô maman bobo.
Ça va beaucoup mieux, l'hebdo, avec Michel Simès.
Chers amis du dimanche matin, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour Christophe, bonjour Emma.
Bonjour Michel.
C'est bien. Ah, quel bonheur d'être avec vous ce matin, surtout quand on a le nez bouché comme moi. Patrice, vous allez nous parler quoi ? Laryngite, trachéite, rhume ?
Non Michel.
Non, alors ce matin, je vous promets des réveils en douceur avec un truc infaillible. Je ne parle pas de la matinale de RTL qui a déjà ce pouvoir, hein, celui de vous réveiller en douceur, mais d'un appareil magique, d'une sorte de réveil matin intelligent, tellement intelligent qu'il manipule votre cerveau. J'ai nommé le simulateur d'aube.
Ah, vous allez nous parler simulation.
Oui.
Vous connaissez bien.
Je sais pas.
Belle transition pour Emma, donc.
Ben oui, Emma, vous allez nous parler rhume, laryngite, trachéite.
Et toujours pas.
Toujours pas.
Je vais vous parler d'un matin où j'étais dans ma salle de bain, je mettais du mascara et ma fille me demande... Ben pourquoi tu te maquilles ? Et là, j'ai eu un petit blanc, j'ai eu du mal à répondre, alors du coup, je vais essayer de le faire avec vous.
Christophe
Alors moi, je ne vais pas non plus vous parler rhume, laryngite,
de trachéite. Non, mais j'ai bien compris que tout le monde se foutait de mon
voilà,
état.
Voilà, tout à fait. Non, je vais, vous qui avez, qui nous écoutez, qui avez mal au dos peut-être, qui vivez cette douleur avec des crises, qui quelquefois vous clouent littéralement au lit, au sol, dans un canapé, voire comme c'est arrivé à un ami, dans les toilettes pendant 5 heures, en attendant que le retour de sa chair est tendre, pour pouvoir bouger ne serait-ce qu'une jambe. Vous pensez que vous êtes condamné à l'inaction avec ce mal de dos ? Eh ben, c'est mal me connaître. J'ai des petits trucs à vous donner pour que vous puissiez bouger et même faire du sport. Et vous verrez que c'est excellent, en plus, pour soulager votre dos.
Vous avez un ami qui est resté 5 heures dans les toilettes.
Tout à fait.
Il était constipé.
Non. Il a été bloqué du dos, tout seul un matin chez lui, et il ne pouvait plus bouger. Il a eu une douleur d'enfer, et il était coincé. Et sa femme est rentrée 5 heures après, et il l'a appelé, elle était très étonnée de le retrouver là.
Jusqu'à 10 heures sur RTL. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Les 7 heures du matin.
Patrice, le plus beau sommeil ne vaut pas le moment où on se réveille, disait André Gide. C'est vrai que je lis beaucoup.
Bravo.
Pour cette émission, ouais. Je me cultive. Alors il est 7h du matin. Jacqueline Taïeb a du mal à se réveiller. Mais ça, c'était en 1967. Vous étiez né, ouais.
À peine. Vous étiez déjà un adolescent.
Moi, j'avais 10 ans. Aujourd'hui, les choses ont changé. On a le simulateur d'aube et vous l'avez testé pour nous. Comme tout ce que vous dites dans cette émission, d'ailleurs.
Effectivement.
Vous le testez.
Mais pour commencer, quand même une question. Comment vous réveillez-vous le matin ? Quelle est la première chose que vous entendez quand vous ouvrez l'œil ? Est-ce que ça ressemble à ça ?
Ah, quelle horreur !
Ou alors à ça ? Ou encore à ça.
Aïe, c'est horrible.
Ouais. Moi ça ressemble à ça. Goûtez. Une chaise d'eau. Voilà.
Bon, en tout cas, tout ce que vous venez d'entendre, c'est l'illustration sonore de la violence matinale. Un cocktail de bruit que votre organisme encaisse sans y avoir été préparé. Une brutalité qui vous fait passer en une seconde de la tranquillité d'un sommeil réparateur au stress le plus agressif qui soit. Vous n'imaginez pas la violence que ce genre de réveil représente pour votre organisme. Pourtant, le matin... il faut bien se lever et il y a un moyen de le faire en douceur, histoire de ne pas être chiffonné, fatigué, irrité. Vous pouvez utiliser un simulateur d'aube.
Alors comment ça marche ?
Eh bien, c'est une lampe réveil qui s'allume lentement. Plus on se rapproche de l'heure du réveil, plus la luminosité augmente. Et lorsque cette luminosité est à son maximum, eh bien, vous vous réveillez naturellement, sans avoir les tympans déchirés par une sonnerie stridente.
Alors, on va prendre un exemple, Patrice. Je suis un auditeur d'RTL. Demain matin, je veux me lever à 7h pour écouter Yves Calvi. Je fais quoi ? Je programme ma lampe. Et ensuite, que se passe-t-il ?
Alors, une demi-heure avant, à 6h30, la lumière de l'ampoule du simulateur d'aube s'allume. Au début, c'est à peine perceptible. Hein, c'est l'équivalent de la lueur d'une bougie dans la pièce d'à côté. Donc, vous continuez à dormir. Mais cette lueur, si faible soit-elle, alerte le cerveau. Il se dit, tiens, il y a une variation de lumière quelque part, ce qui veut dire que le jour est en train de se lever. Le cerveau ne fait pas la différence entre le simulateur d'aube et le soleil. Dès qu'il repère de la lumière, il se met au boulot.
Et son boulot, c'est de réguler votre sécrétion hormonale parce que vous sécrétez des hormones,
et
Patrice.
Oui, comme tout le monde, première mesure, diminution, puis arrêt complet de la sécrétion de mélatonine. Seconde mesure, augmentation de la sécrétion de cortisol. Pour faire simple, la mélatonine s'endort et le cortisol, ça réveille.
Oui, en fait, simple, hein, vous faites simple.
Eh ben oui, sinon je serais médecin.
Oui, alors, c'est vrai.
Le cerveau, qui est berné par le simulateur, prépare l'organisme au réveil. En gros, il signe la fin de la récréation. Le réveil paradoxal est prié de s'achever. Les fonctions neurovégétatives, comme le transit intestinal par exemple, sont priées de se préparer pour la journée qui s'annonce. Et pendant ce temps-là, la luminosité augmente progressivement. De l'équivalent de la lueur d'une bougie, on est passé à la lueur de deux, puis de trois bougies. La progression est régulière. Et puis, la luminosité augmente. Plus elle augmente, plus le cerveau régule les sécrétions hormonales. Arrive 6h58, voire 6h59. Vous voulez vous lever à 7h, et là, la magie opère, vous ouvrez les yeux en douceur, vous vous réveillez naturellement, vous avez devancé la sonnerie du réveil.
Est-ce que ça marche à tous les coups ?
Alors, j'utilise un simulateur tous les matins, et ça marche quasiment à tous les coups. C'est vrai que si vous êtes vraiment fatigué, que vous avez fait une nuit de 4 ou 5 heures, il vaut mieux, en plus du simulateur, prévoir un réveil. Mais là encore, quand le réveil sonnera, vous ne ressentirez pas la même chose que quand il sonne dans le noir complet. Ce sera beaucoup moins agressif. Vous sentirez que votre organisme a été préparé.
Est-ce que ça fonctionne dans l'autre sens, pour vous accompagner le soir quand on se met au lit, par exemple ?
Alors, bien sûr. Et dans ce cas, la lumière va décroissant. C'est-à-dire que le simulateur d'aube se fait, en fait, simulateur
de crépuscule. Si c'est dans l'autre sens, si vous voulez, c'est pas le but.
Alors, après, tout ça, c'est une question de prix aussi. Hein. Des simulateurs, vous en avez à tous les prix, mais méfiez-vous des gadgets. On va dire qu'autour de 100€, vous trouverez des appareils performants. Ensuite, ça peut monter jusqu'à 250€ parce que certains simulateurs proposent aussi de vous réveiller sur des durées variables, 15, 30, 45 minutes, jusqu'à 90 minutes, ou encore avec des chants d'oiseaux, ce qui est quand même mieux que de se réveiller avec des noms d'oiseaux.
Et ça ne dérange pas votre femme quand vous lui dites que vous adorez la simulation ?
Vous sous-entendez que ce serait une spécialiste ?
Non, je ne la connais pas assez.
Alors, en fait, le simulateur d'aube, c'est vrai que je le cache un petit peu pour qu'il me réveille plutôt moi qu'elle qui est de l'autre côté du lit. Nous avons un lit très large, vous comprenez ?
Ah oui, d'accord, très bien. Docteur Joëlle Adrien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurobiologiste, directrice de recherche à l'INSERM et présidente de l'Institut National du Sommeil et de la vigilance. Vous avez entendu ce qu'a dit Patrice sur les simulateurs d'aube. Est-ce que c'est... Alors lui, ça lui plaît, mais à titre personnel. Oui. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous conseillez aux gens qui ont du mal à se lever ? Est-ce que tout ça a un véritable effet ? Ou est-ce que tout ce que nous a dit Patrice, c'est de la daube, finalement ?
Alors, c'est pas de la daube, mais effectivement, du fait que les sécrétions hormonales sont un peu anticipées et synchronisées par cette lumière qui va s'allumer progressivement avant le réveil définitif, eh bien, ça accélère la forme au réveil. C'est-à-dire qu'on va être plus en forme sur le plan physique et aussi sur le plan intellectuel et mental au réveil. Mais c'est difficile, c'est délicat d'utilisation parce qu'on n'est pas toujours dans la même position. Donc, selon qu'on est tourné du côté de la lampe ou de l'autre côté, ça ne va pas avoir le même effet.
En fait, il faudra une lampe de chaque côté.
Voilà,
il faudra remplacer sa compagne ou son compagnon.
On ne sait jamais la quantité de lumière qu'on reçoit vraiment, parce que ça dépend de sa position.
Vous avez une question, Patrice ?
Non, personnellement, moi, je le conseillerais à tous les gens qui ont des horaires décalés, les infirmières, les travailleurs de nuit, les voyageurs qui sont un peu jet-lagués. La voie médicale que vous portez, le conseillerait aussi ?
Oui, tout à fait, parce que chez les personnes qui dorment suffisamment, tous leurs besoins, ce n'est pas efficace, ça ne sert à rien. Par contre, chez les personnes qui sont en dette de sommeil, c'est-à-dire les personnes qui travaillent en horaire décalé ou les personnes qui sont obligées de se lever plus tôt et qui se couchent tard et qui ne dorment pas suffisamment en temps, eh bien, ceux-là, ça améliore leur forme dans la journée, leur performance cognitive, leur efficacité, etc. Donc, c'est important, mais si on a une dette de sommeil, c'est utile, mais enfin, la meilleure façon de lutter contre la dette de sommeil, c'est de ne pas se mettre en dette de sommeil, c'est-à-dire c'est de dormir.
Docteur Joëlle Adrien, merci beaucoup. Et puis je rappelle à ceux que ça intéresse, le sommeil, que la journée du sommeil, c'est le 22 mars, mais ça n'est pas une journée chômée. On fait une pause et on se retrouve.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Et c'est la deuxième partie de l'hebdo aujourd'hui avec Emma. Sacha Guitry disait « Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui ». Ouais. Et on va en parler avec vous, puisque vous nous disiez dans le sommaire que cette chronique finalement est née d'une question de votre fille un matin. « Dis-moi, maman, pourquoi tu te maquilles ?»
Et c'était un peu étonnant parce qu'à la fois elle me regardait poser du mascara sur mes cils, un peu hypnotisée, et moi je me rendais bien compte que ça n'avait pas une utilité ou un intérêt évident. Donc la question tombe et j'étais bien embêtée pour y répondre. Et je me suis demandé moi-même, est-ce que je me maquille pour me faire belle ? Mais alors si c'est ça, ça implique que sans ça je sois moche. Pas de commentaires, Michel. Nous sommes
tard,
à la radio.
Franchement, je n'y ai même pas pensé.
Qu'il faudrait se maquiller pour être belle, et j'ai pas du tout envie de lui mettre cette idée en tête, cette espèce de présupposé. Alors est-ce que je me maquille pour moi ou pour les les autres, parce que là, je suis devant mon miroir, mais pendant la journée, c'est aux autres que je me présente. Et vous, mesdames, ce matin, vous n'allez peut-être pas vous maquiller, parce qu'on est dimanche, qu'on reste à la maison. Mais alors, pourquoi on se maquille ? Est-ce que c'est pour plaire ? Pour se plaire ? Et pourquoi moi, je fais ça, et pas le père de ma fille, par exemple ? Donc, si vous avez compris, sur le coup, j'ai botté en touche, mais j'ai quand même eu envie de trouver, de chercher des réponses.
Vous êtes allé chercher du côté des Égyptiens.
Eh bien oui, parce que c'est pas nouveau cette affaire, et ça concernait pas que les femmes à l'époque, les hommes aussi étaient concernés en Égypte, et puis à partir du Moyen-Âge, la mode en Europe notamment était plutôt au teint pâle, et celles qui se fardent sont alors considérées comme des hérétiques. On dit qu'elles remodèlent l'œuvre de Dieu, et qu'elles ont probablement quelque chose à cacher, hein. C'est un peu louche de se maquiller. Plus tard, il y a la mouche, là, vous savez, ce petit rond au crayon qui est là pour cacher un bouton qu'on voit sur les images des courtisanes. Mais cette œuvre, cette histoire d'œuvre divine, ça dure très longtemps. Même quand on revient à la couleur, au XVIIIe siècle, on met du rose à joues assez clair parce que le rouge vif, c'est réservé aux courtisanes. Et ça n'est qu'une parenthèse, hein. L'idéal, c'est la pâleur. Le maquillage, de manière assez générale, c'est pour les filles de mauvaise vie. Donc vous voyez combien, au fil des siècles, on identifie le bien et le mal. C'est une histoire culturelle qui nous constitue aussi, et ça ne s'arrête pas là. Au début du XXe siècle, le maquillage est associé à la libération de la femme, et celle qui défile aux États-Unis, eh bien, elle porte des lèvres bien rouges. Vous avez fait une petite passe d'histoire.
J'aime bien quand vous parlez de tout ça. Vous avez répondu quoi à votre fille, ou vous auriez répondu quoi maintenant ?
Alors, j'ai des pistes, mais vous allez peut-être m'aider. Je dirais que je me maquille d'abord pour me faire plaisir, pour me plaire à moi. Quand même, elle se maquille ou elle se déguise pour jouer et pour s'amuser. Qu'il s'agit d'abord donc de plaire à moi et pas à l'autre, même si tant mieux, si ça lui plaît, c'est du bonus. Mais c'est une projection qui ne m'appartient pas tellement, finalement. J'ai vu sur Internet un sondage selon lequel le maquillage serait une arnaque pour les hommes, donc le maquillage des femmes. Mais moi, je me suis dit que c'était peut-être pas plus une arnaque que d'être super marrant au premier rendez-vous et finalement complètement névrosé après.
J'en étais sûr.
vous parlez de qui ?
De personne en particulier.
Parce qu'en général, vous savez ce qu'on dit, hein, femme qui rit.
Ah oui, ça c'est gagné là, c'est vrai que ça a l'air d'être gagné. Voilà, je crois que j'essaierai de lui dire aussi qu'on est pluriel, que parfois j'ai envie de me maquiller, même si je prévois que d'aller au marché, que c'est un état d'esprit de la journée, un point de départ à la communication avec l'autre peut-être. Et puis je lui dirai que c'est une des multiples façons dont disposent les femmes de se plaire, de s'exprimer ou d'exprimer leur féminité si elles ont envie, comme un élément en fait dans une boîte à outils, des petits trucs qui font plaisir, mais sans aucune forme d'obligation. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, la compagnie aérienne Virgin a récemment décidé de ne plus imposer à ses hôtesses de porter du maquillage. Donc si ça devient une initiative personnelle, bah, c'est pas mal. Et finalement, les femmes, elles ont de la chance pour ça. Nous avons de la chance parce que, par exemple, si on a envie d'être chic, on a plein de possibilités. On peut mettre un tailleur pantalon, une jupe, on peut mettre une chemise, une robe, une combi, des boucles d'oreilles énormes, un chignon, des cheveux, du rouge à lèvres ou des faux cils, des bottes. Et en fait, en faisant cette chronique, je me suis rendu compte que vous aviez vachement moins d'options et que peut-être que ça vous manquait.
Les options ?
Ben oui.
Ouais, c'est comme
une forme de créativité.
Il y a plein de choses qui ne manquent pas chez la femme. Les cycles.
Oui, mais là, justement,
la grossesse,
je vous parlais
de choses.
Ah ouais, non, pas du tout.
Non, mais pas du tout.
L'habillement, non, tout ça.
Pas du tout.
Je le note.
Elle était maquillée comme une star de ciné.
RTL.
Ça va beaucoup mieux.
Accoudée au jukebox.
Avec Michel Simès.
L'hebdo.
Les amis, vous savez qu'on aime bien donner des conseils à nos auditeurs le dimanche matin. Vous avez le droit à un conseil chacun maintenant. Qui commence ?
Bon, Emma, honneur aux femmes quand même. C'est un peu sexiste, mais bon, vas-y.
Ah oui, elle n'aime pas ça. Je vous rappelle qu'elle a fait une chronique un jour sur la galanterie. Ça,
bon, mais je prends quand même.
Ça l'énerve.
Alors prenez, vas-y. Moi, je voulais vous parler d'Eo.
Des quoi ?
Du déodorant, parce que vous en mettez, je suis sûre, tous les jours. Et peut-être que ça vous inquiète au fil du temps de vous mettre des substances comme ça, vous
savez
pas trop ce qu'il y a
là.
Dedans. Voilà. Eh bien, je vous propose d'essayer le bicarbonate de sodium. Vous voyez ce produit en poudre ?
Magnifique.
Eh ben, oui, exactement. Pas cher et efficace. Vous le posez comme du talc sous vos aisselles. Essayez, puis vous me direz après.
Et ça n'est pas irritant.
C'est un bon substitut. Voilà.
Et ça, empêche quoi ? La transpiration ou les odeurs ?
Les deux, mon général.
Les deux. Ça va. Mais s'il ne faut pas avoir une chemise foncée, quoi ?
Bah, vous me direz.
Parce que si vous avez des auréales, une chemise foncée et du talc, vous pouvez jeter la chemise après.
Bon, remballez mon conseil.
Non, c'est bien, c'est intéressant. Mais oui, il y a des conseils que je ne suivrai pas, je vous le dis. Christophe.
J'y vais donc. Le petit conseil du jour, c'est quand vous rentrez de votre jogging et que vos chaussures sont toutes mouillées, on est tenté de les mettre sur le radiateur pour les faire sécher. Très mauvaise idée, parce qu'elles vont se raidir, elles vont être toutes raides, toutes rêches quand vous voudrez les remettre. Le meilleur moyen de les faire sécher, c'est de rouler du papier journal, vous le glissez dans les chaussures et vous posez vos chaussures dans un endroit sec.
et en 3, 4, 5, 6 heures, elles sont sèches. Voilà.
Avec du journal, n'importe quel journal.
Du journal, n'importe lequel.
N'importe lequel.
Le Figaro, les Échos,
le Parisien,
l'équipe. Libération,
l'équipe. Puisque c'est des chaussures de sport.
Tout à fait.
Ouais. Exactement. Ouais, ça marche mieux comme ça.
Ouais. Voilà.
Bon, moi j'ai une histoire de bouteille d'eau minérale. Tout le monde a sa bouteille d'eau minérale à côté de lui toute la journée. Eh bien, cette bouteille d'eau minérale, ne la laissez pas traîner n'importe où. Elle n'aime pas la lumière et préfère les endroits frais et secs. En outre, une fois ouverte, il faut la finir dans les 48 heures si vous utilisez un verre. En revanche, si vous buvez au goulot, comme Michel vient de le faire, je l'ai pris sur le fait là, videz la bouteille dans la journée. Sinon, il y a l'eau du robinet. Je rappelle qu'elle est 82 fois moins chère au litre que l'eau en bouteille.
D'accord. Mais bon. je savais c'est qu'il ne fallait pas laisser les bouteilles d'eau au soleil. Je ne savais pas qu'il fallait vider la bouteille dans la journée.
Mais oui.
Ça, c'est...
Surtout quand elles sont en plastique, en verre. Ouais. Quand ça peut aller.
Surtout quand on a des petits virus aussi, peut-être.
Non, de quoi vous parlez.
Oui. Un bon Michel.
Bonne matinée en compagnie d'RTL. Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
Troisième partie de l'émission, notre partie récré, c'est la pendant laquelle on s'amuse. Enfin, on s'amuse tout le temps, mais là, un peu plus. Emma, c'est l'heure du...
Quiz.
Quiz musical. Donc, je vous lis des paroles de chansons et à vous de retrouver le titre et le nom de l'interprète. L'interprète, mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Personne ne murmure je t'aime.
Oh, je la connais, en plus, ça c'est énorme. Attends, attends, il faut attendre le coucou.
Bah oui, mais attendre le coucou, il faut trouver entre temps quand même.
Ouais. Françoise Hardy.
Ah, bah, ouais. Françoise Hardy, aïe aïe aïe.
On est mauvais.
Voilà, tous les garçons et les filles. Ouais. Tous les garçons
et les filles de mon. J'adore Françoise Hardy. Franchement, c'est, je sais pas, elle est la modestie, l'humilité, le
l'ésotérisme.
Ouais, un peu moins ça, mais elle chante super bien. Je serais bien allé la voir en concert si jamais elle nous écoute.
Ça alors,
on peut venir, Michel.
Ouais, bien sûr, on ira tous ensemble. Je vais
nous
faire réserver une loge.
Nous serons vrais.
Ouais. C'était tous les garçons et les filles. Deuxième extrait, pour respirer un petit peu, on s'écarte en se tenant la main. Et puis, pour être encore plus heureux, on fait Lala en chantant mon refrain.
Cette histoire de Lala.
Ah, cette histoire de main.
Oh là, attention le coucou.
Et puis. Pour respirer un petit peu.
Ah ouais.
Vous l'aviez pas vu venir. Hein.
Et puis, pour être encore plus heureux, on fait la 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 en chantant mon refrain.
C'est Patrick Sébastien.
La boîte des sardines.
Mais tout à fait.
D'ailleurs, s'il est en concert bientôt, Michel aimerait bien y aller.
Il est très sympa. Patrick
mais bien
Sébastien,
sûr,
vraiment,
c'est bien sûr, un brilliste, un amoureux du rugby.
Ouais, et puis il est généreux. Il est voilà, c'est vraiment un gars que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui est vraiment quelqu'un de très bien.
Et là, tout le monde est réveillé dans la bonne humeur en plus.
Ah bah oui,
là, c'est
là,
bon.
Ça,
c'est
on n'a
bon.
Pas besoin de simulateur d'eau.
Allez, troisième extrait. Je t'envoie mes sourires des jours où je me sens plus fort.
Ah, c'est
je t'envoie. Michel Berger.
Oui.
Je t'envoie mes sourires les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort.
Quelques mots d'amour. Ça aurait pu être France Gall ou Véronique Sanson parce qu'elles l'ont chanté
ouais,
aussi.
C'est beau, hein, Michel Berger, ouais. Christophe.
Non, 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 rien, j'ai rien de spécial à vous dire.
Ah bon,
c'est une belle chanson.
Ah, voilà. C'est ça que vous me dire. Vous faites signe quand je vous donne la parole. Et non, mais... il fait signe pendant la chanson.
C'est
il
vraiment
donne-moi la parole.
Vous avez je pas voulais compris. Juste préciser que je nous ai évité le zéro pointé. Mais enfin, oui, non, c'est pas grave.
Non, mais tiens, pour me faire pardonner, j'ai un mot que vous ne connaissez pas.
Allez-y.
Alors attention, parce qu'il faut que j'arrive à le prononcer. Qu'est-ce que la galma. Torémaphobie. Algalmatorémaphobie.
C'est la peur de d'un truc.
Ah bah oui,
qui est juste incroyable. Je sais pas ce que je me dis, mais c'est pas possible qu'il y ait des gens qui puissent avoir peur de ça.
Détaillez-nous chaque partie du
Agalma.
Mot.
Agalma.
Agalma.
Toréma.
Toréma.
Phobie. Alors, je vais vous le dire parce que c'est juste un truc.
C'est les gens d'un animal.
Non, c'est les gens qui ont peur que les statues prennent vie et bougent. Je vous assure, c'est quand même juste incroyable.
Il y a des phobies pour tout. Ça doit être des racines
Agalma,
grecques.
Agalma, je vais voir. Agalma, toréma, phobie. Voilà, vous recherchez, vous
trouvez. Eh ben moi, j'en ai une, c'est l'hippopotomonstroséski-pédaliophobie.
La peur des hippopotames.
Non, la peur des pédalos.
La peur des mots trop longs.
C'est
C'est ça.
Oui, tout à fait.
Patrice, vous avez quoi quelque chose, une info,
j'ai
un
du
top
bizarre, j'ai du bizarre. Est-ce que vous connaissez le syndrome du loup-garou?
Bah oui, la nuit, on entend un bruit, non. On a peur, non?
Non, je sais pas. Michel, ça vous dit quelque chose? Alors, ça porte un nom aussi scientifique, qui est l'hypertrichose.
Ah, c'est l'hypertrichose, c'est la peur d'avoir trop de poils.
Non, alors c'est pas la peur, c'est le phénomène lui-même, c'est le développement excessif des poils sur certaines parties ou sur l'ensemble du corps. Ça touche autant les femmes que les hommes. Alors, à quoi c'est dû? Peut-être à un dérèglement hormonal, peut-être à des facteurs héréditaires, peut-être à la prise de certains médicaments. Et la recherche signale quand même que les populations méditerranéennes sont plus touchées par ce syndrome que les autres populations. Je répète, le syndrome du loup-garou.
Oh la vache,
j'ai pas un jingle.
Vous l'avez pensé au jingle?
Voilà. Ah, c'est horrible.
Tout à fait.
Vous voulez encore du bizarre?
Si vous avez surtout un mouchoir.
Alors, le syndrome de la main étrangère, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Ah, c'est, assis au cinéma. C'est le harcèlement, non?
Ça pourrait.
Vous êtes assis dans un cinéma.
Ça pourrait déboucher là-dessus.
Vous êtes assis dans un cinéma, une main se pose sur votre cul.
C'est ce qu'on appelle le syndrome de Weinstein.
Ça peut donner lieu à ce type de scène. Je vous explique. Le syndrome de la main étrangère, c'est une maladie neurologique étonnante. La personne qui en souffre a l'impression que sa main est autonome. C'est-à-dire qu'elle est collée à son corps, mais elle ne fait pas partie de son corps. Elle n'en fait qu'à sa tête. Elle est capricieuse. Et donc, elle peut tenter, je ne sais pas moi, de vous gifler ou de fouiller dans votre sac à main sans que vous l'ayez souhaité. Donc, évidemment, vous posez la main sur la cuisse ou vous faire je ne sais quoi encore. D'où vient ce désordre neurologique? Peut-être d'une lésion ou d'une tumeur au cerveau. Et il est apparenté à une forme d'épilepsie. D'ailleurs, il est traité comme tel. Ça s'appelle le syndrome de la main étrangère.
J'aime bien apprendre des choses en médecine, Patrice. Vous venez de me l'apprendre. On fait une pause et on se retrouve pour parler avec Christophe.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Retour dans l'hebdo, Christophe, on va parler du mal de dos et du sport. Vous nous donnez avant la belle image qu'on utilise pour expliquer comment est constitué le dos, parce que vous avez fait des recherches personnelles.
Tout à fait, je fais comme Patrick, je fais des recherches. On dit que le dos, c'est un peu comme la mâture, le mât, hein, posé sur le pont d'un bateau. Il y a le mât, qui est tenu par les haubans, et puis il y a les haubans, ces liens qui, grâce à la tension qu'ils exercent en se faisant face, permettent au mât de tenir debout, quand bien même il ne serait juste posé sur le bateau. Vous voyez, c'est vraiment une question d'équilibre. Eh bien, le dos, la colonne vertébrale et les muscles, c'est un peu pareil. Le mât, c'est la colonne. Les haubans, ce sont les muscles, et le pont, c'est le bassin. Tout ça constitue un bel équilibre, évidemment, mais un équilibre fragile. Et alors, si à cause d'un mauvais mouvement ou d'une mauvaise position, un muscle tire plus fort que les autres, ou si un muscle est plus faible que les autres, eh bien, il y a un déséquilibre et donc il peut y avoir un problème de dos.
Alors justement, avec un dos, on va dire, assez fragile, qu'est-ce qu'on doit privilégier comme activité?
Le best-seller, c'est quand même la natation, l'activité idéale, car on bouge en apesanteur avec des efforts qui sont portés, vous savez, un petit peu comme le bébé dans le ventre de sa maman et dans le liquide du ventre de sa maman. Mais attention, il faut préférer le dos crawlé, hein, aux trois autres disciplines de natation qui sont le crawl, donc sur le ventre, la brasse et le papillon, pour éviter justement les cambrures du dos. Et un petit truc, si vous nagez le dos crawlé ou si vous essayez de nager dans la bonne position, quand vous êtes sur le dos dans la piscine, vous levez les yeux vers le plafond en faisant légèrement basculer la tête vers l'arrière, vous voyez,
ouais. Et vous verrez... Je fais pas, parce exactement. Que moi je m'étouffe au bout de trucs. Je reprends toute la flotte dans la tête.
Michel sait faire plein de choses, mais c'est pas un très bon nageur, je précise. Alors vous verrez que dans cette position, avec les yeux, donc, les yeux au plafond et la tête positionnée en arrière, vous lèverez naturellement le bassin vers la surface de l'eau, et la position idéale pour avoir un dos parfaitement plat et pour bien nager. Une autre activité qui est à la portée de tout le monde quand on a mal au dos, c'est bêtement la marche. Vous savez, la marche, qu'on vous conseille de faire évidemment le plus souvent possible dans la semaine, elle sollicite toutes les articulations, et grâce au mouvement des bras, quand vous marchez, le mouvement de balancier, eh bien, toutes les liaisons entre les muscles du dos et la colonne vertébrale, le fameux mât donc, et les haubans sont aussi sollicités. Je conseille également les sports d'étirement comme le yoga ou le stretching, car ils permettent de tonifier les muscles du dos, mais aussi de les relâcher, je le dis doucement hein, quand même, vous voyez, pour justement les décontracter et donc les soulager
alors
le dos.
Je vais préciser quand même quelque chose, vous pourrez pratiquer ces activités en cas de mal de dos que si votre médecin vous a donné le feu vert. Ici on vous explique ce qu'il est possible de faire, mais bien évidemment ce n'est qu'après un avis médical, parce que si vous avez un problème de dos vous pourrez tout faire, voilà, on verra, il faut demander à un médecin en fait.
C'est en prévention
alors,
en fait.
Voilà, Christophe, le vélo.
Ah, le vélo, ça vous est cher le vélo Michel. Évidemment on peut pratiquer, mais alors de façon soft, pour se balader, sans forcé, en moulinant, avec même précaution que vous fassiez du vélo à l'extérieur ou chez vous sur votre vélo d'appartement. Et il faut absolument faire attention à la bonne position et au réglage de la hauteur de selle. Globalement, quand vous êtes sur votre selle de vélo, votre jambe doit être tendue à 80% lorsque vous êtes assis sur la selle et que le pied se trouve sur la pédale quand elle est au plus bas. voyez, hein, voyez ce que je veux dire. Ensuite, il reste le guidon. Alors, vous êtes assis sur la selle, vous tendez votre bras en posant votre coude sur le bec de selle entre vos jambes. Vos doigts tendus doivent reposer sur la potence de votre guidon et le bras doit être parallèle au sol. Vous me suivez ? Je répète, vous êtes assis sur la selle, vous posez votre coude sur le bec de selle, vous allongez votre bras, vos doigts tombent sur votre guidon et le bras doit être parallèle au sol.
En fait, et le voilà. Coude entre les jambes.
Et le coude entre les jambes
on sur fait le bec attention. De
selle. Exactement.
Oui. En mettant le coude.
Tout à fait. Et voilà. En l'enlevant aussi d'ailleurs, éventuellement.
Quelles activités il faut éviter absolument ?
Alors, toutes celles qui occasionnent des impacts trop intenses avec le sol, entre le sol et les appuis. Alors, le tennis, évidemment, c'est déconseillé. Vous imaginez les appuis violents qu'il génère, surtout quand vous vous déplacez très fort d'un côté à l'autre du court. Idem pour l'équitation, bien sûr, et puis tous les sports motorisés, comme le motocross ou le VTT, de descendre dans les chemins caillouteux. Important, dès que vous avez la moindre douleur, vous stoppez immédiatement. Il ne faut plus forcer, c'est impératif. Le mal de dos, vous savez, c'est très pénible et on s'en décolle très difficilement. Si on sent une douleur au niveau du dos, c'est que l'exercice est mal fait ou qu'il n'est pas adapté. Dans ce cas-là, vous allez voir le médecin et vous voyez un peu ce qui se passe.
Est-ce qu'on peut résumer ça en disant que finalement, le sport, ça peut être à la fois l'ami et l'ennemi du dos?
Bah, c'est un peu
c'est
ça.
Une expression que je viens d'imaginer.
C'est magnifique.
C'est beau.
Attendez, je l'aggrave dans le marbre.
Alors, oui, bien sûr pour le dos, mais c'est aussi valable pour toutes les autres pathologies et tous les problèmes que vous pouvez avoir. Sauf cas extrême, on peut dire quand même que l'activité n'est jamais complètement à bannir. On pourrait aussi parler de prévention. Et si aujourd'hui, on a vu comment le sport peut être un très bon allié quand on a mal au dos, vous verrez que la semaine prochaine, je vous expliquerai comment l'activité physique et le sport peuvent venir en prévention pour ne pas avoir de mal de dos. Et on parlera notamment du gainage. Michel.
Merci Christophe. Docteur Gérard Dimassio, bonjour.
Oui, bonjour Michel.
Bonjour, vous êtes médecin du sport, spécialiste de la posture. Alors, c'est pour ça qu'on voulait vous avoir au téléphone, parce que Christophe a parlé de plein de choses sur le plan de la prévention, du mal de dos. À chaque fois que quelqu'un a un lumbago, un mal de dos, on se demande voilà, si effectivement il faut se muscler, etc. On parle assez peu finalement des différentes postures que nous pouvons avoir dans la journée et qui finalement vont solliciter nos muscles de façon asymétrique et vont peut-être être responsables de maux de dos chroniques. C'est quoi le boulot du posturologue ?
L'analyse de la posture et la posturologie qui est l'analyse sensorielle vont essayer d'améliorer la compréhension de la pathologie d'un sujet. Vous avez mal au dos, on ne sait pas pourquoi, à la radio on ne trouve rien de particulier, on vous dit que peut-être il y a une usure, une arthrose. En fait, la vraie problématique, c'est est-ce qu'il y a une cause mécanique à l'origine de la douleur ? Prenons un exemple. Vous êtes debout, quand vous piétinez, que vous faites des courses, votre épouse, par exemple, passe un petit peu de temps dans une boutique, et vous attendez à côté, vous avez une barre horizontale dans le dos. Il est vraisemblable qu'on a ce qu'on appelle un syndrome articulaire postérieur, une compression. Ça veut dire finalement que les surfaces articulaires du dos ont tendance à se rapprocher les unes des autres.
Ça n'a rien à voir avec le fait que vous allez sortir le portefeuille ou la carte, non ?
Si. Alors,
c'est le stress.
Ça crée un stress, ça aggrave la chose.
D'ailleurs, donc, les anthropologues, les anthropologues disent que le mal de dos est probablement apparu quand l'homme s'est mis debout, que les animaux n'ont pas de problème de dos parce que leur colonne n'est pas courbée. Bon, on a plusieurs courbures, hein. On a la lordose lombaire, c'est-à-dire le fait d'être cambré, la syphose dorsale, le fait d'être un peu voûté en haut. La colonne a des courbures pour nous permettre de tenir debout et que c'est suite à la bipédie que finalement le mal de dos est probablement apparu.
C'est exactement ça. À partir du moment où on se redresse, le bassin qui est assez horizontal avec une courbe unique finalement du rachis, le dos il y a presque une seule courbe, quand on se redresse, eh bien on va créer un creux lombaire, la lordose lombaire, et c'est là qu'apparaissent les problèmes, parce qu'on va créer des hyper-appuis, des hyper-contraintes en bas du dos, et après sur chaque point d'inflexion du rachis. Alors l'intérêt de l'inflexion du rachis, la colonne qui est en S, c'est un espèce d'amortisseur naturel, c'est extrêmement pratique pour s'en sortir tous les jours quand on bouge, mais n'empêche que, évidemment, le dernier disque prend, et l'avant-dernier disque, plus de compression et donc est plus sujet à l'usure mécanique naturelle. Quand on est debout.
Ouais, une dernière question rapide, Emma.
J'ai l'impression que dans nos modes de vie sédentaires, on est nombreux à croiser les jambes quand on est assis, quand on travaille. Il y en a même qui se les entortillent complètement les unes l'une sur l'autre. Est-ce que ça pose un problème d'emblée ? Est-ce que ça a des répercussions sur le dos ?
Eh bien non, c'est exactement l'inverse. On a besoin de décomprimer les surfaces articulaires de manière asymétrique. J'en veux pour preuve nos ancêtres qui devaient passer des temps longs à surveiller les sujets, notamment dans les châteaux. Eh bien, on leur demandait de s'asseoir et étant assis, une jambe était posée sur une petite marche, tout simplement pour ne pas avoir les deux membres dans la même position avec une compression permanente identique sur le disque. Donc on varie un coup à droite, un coup à gauche. Et d'ailleurs, si vous regardez les sujets, les gardes de la, du palais de la reine d'Angleterre, ils restent longtemps debout, mais on les voit bouger en alternant une jambe puis l'autre. Ça revient finalement à croiser les jambes pendant un court instant, mais pour décomprimer ces surfaces-là.
Alors, en revanche, on sait que croiser les jambes pour les dames, c'est pas bon pour la circulation veineuse. Hein. Ça augmente la pression veineuse, ça entraîne des varices et tout ça. Gérard Dimassio, merci beaucoup. Si les gens veulent en savoir plus, nos auditeurs d'RTL, on va vous écouter aussi parce que mardi soir à 20h50 sur France 5, vous participez à un documentaire « Mal de dos, prenez soin de vous » que j'ai l'honneur de présenter. On s'est rencontrés d'ailleurs au moment du tournage. On a beaucoup suivi un de vos patients pour voir comment vous alliez le sortir de là. Ça se passe sur France 5 mardi soir à 20h50. Regardez, parce que si vous avez mal au dos, ça va vous donner beaucoup, beaucoup d'espoir. Merci beaucoup, Gérard Dimassio.
Merci, Michel. À mardi.
À mardi. Merci beaucoup à tous les trois, mes amis. Merci aux auditeurs. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Et je vous promets que ma voix sera redevenue normale. N'oubliez pas, mardi soir sur France 5, 20h50. Mal de dos, prenez soin de vous. Et d'ici là, portez-vous bien.
Au revoir. Michel.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'hebdo.